Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc-en-Diois. L'émission était aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Laurence Decréau. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Decréau, vous êtes ici pour nous parler d'une organisation à venir qui aura lieu du 20 au 22 mai. À
Mirmande,
merci, et qui s'intitule Festival des vocations. Avant de présenter ce festival, nous pourrions vous demander, Laurence Decréau, ce qui vous a amené sur cette initiative.
Alors moi, je suis un ancien prof de lettres classiques et j'ai travaillé longtemps dans l'édition. Et je suis fascinée, je ne sais pas pourquoi, depuis une quinzaine d'années, par la notion de vocation, c'est-à-dire quelle est la place de chacun dans le monde et comment est-ce qu'on peut la trouver. Peut-être parce que j'ai eu un peu de mal à la trouver aussi. Et je crois que nous sommes très nombreux dans ce cas-là. Et le Festival des vocations a pour vocation, hein, justement, d'aider les gens, notamment les jeunes, mais pas que, aussi les adultes qui sont en panne de sens, à trouver leur voie ou retrouver leur voie sans se laisser, je dirais, dévorer par les préjugés qui sont assez nombreux dans notre pays et qui finalement disent qu'il y a juste un certain petit nombre de métiers qui sont valorisants et les autres, on n'en parle pas. Or, il y a des métiers absolument passionnants que les jeunes souvent ignorent et qui peuvent les rendre fort heureux. Et je pense notamment aux métiers manuels et techniques, qui sont boudés dans notre pays depuis des décennies alors qu'ils rendent les gens très heureux, les épanouissent. Voilà, donc là, c'est un festival qui réhabilite l'idée de vocation dans le travail et qui aussi redore le blason, rend tout leur honneur au métier manuel.
D'ailleurs, le mot vocation a de multiples facettes, significations. En ce qui concerne cette organisation de festival de Mirmande, quel sens a-t-il ?
Alors, bon, la vocation, le sens premier, c'est l'idée qu'on est appelé à quelque chose. Bon, mais et en aucun cas, ce n'est un sens religieux chez nous, hein, je le précise, parce que parfois, certains se trompent. Non, c'est l'idée que, comme je vous disais tout à l'heure, on a sa place dans le monde et on est appelé à faire quelque chose. Et l'idée sur laquelle je voudrais vraiment insister, c'est que tout le monde a un talent. Ça, c'est une chose dont on est persuadé et dont les 70 intervenants qui vont venir, parce qu'ils sont très nombreux, ont tous cette conviction qu'on a tous notre talent, notre petite perle. Simplement, vu le système éducatif en France, il n'est pas forcément évident de mettre le doigt sur ce talent et de savoir pourquoi on est fait. Et donc là, ces 3 jours de festival sont là pour permettre aux gens de toucher à tout. Voilà, ils vont pouvoir toucher des dizaines de métiers et rencontrer des tas de gens qui ont une trajectoire souvent bizarroïde, qui étaient des cancres à l'école, qui avaient l'impression de n'avoir aucune place nulle part et qui finalement ont trouvé un job qui les passionne et ils sont fous de joie. Ou bien des gens qui ont fait de bonnes études et puis qu'à un moment se sont rendus compte que leur métier les ennuyait profondément et qu'ils ont voulu changer et qui ont réussi complètement à se réinventer. Voilà. Donc c'est cette dynamique qu'on veut privilégier de ne pas se laisser emprisonner et choisir sa voie en fonction de ses désirs et de ses talents.
Lors de ces 3 journées, 25 ateliers qui seront proposés autour de métiers. S'il y en a plus,
il y en a encore plus qui nous sont tombés dessus, là, qui se sont rajoutés au dernier moment.
Très bien. Et donc, par rapport aux métiers manuels, comme l'ébénisterie, la taille de pierre, la mécanique auto, les travaux sur corde, etc. Et puis, il y a aussi l'éloquence qui est mentionnée. Alors, en quel sens ?
Parce que l'idée, ce n'est pas de dire, attention, les seules vocations intéressantes sont les vocations manuelles. Chacun a sa fibre particulière. Et donc, nous, notre idée, ce n'est pas de dire « vive les métiers manuels », c'est de dire « vive tous les métiers ». Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi pour thème de notre première édition la vocation de réparer. Parce qu'il y a des gens comme ça, et qui sont d'ailleurs assez nombreux, qui ont cette fibre de réparation. On le voit dès l'enfance. Des jeunes qui souvent, enfin des enfants qui adorent casser pour pouvoir réparer ensuite. Selon les rencontres qu'on va faire, selon un petit peu sa destinée, on va soit s'orienter vers quelque chose qui sera, par exemple, le métier de plombier, qui répare des tuyaux. Moi, j'ai été très longtemps une réparatrice, mais une réparatrice de textes, puisque j'ai été éditrice pendant très longtemps. Et l'édition, bah, vous recevez souvent un texte qui n'est pas bon du tout, et il s'agit de le retaper. Et je me suis rendu compte, en lisant un livre merveilleux qui s'appelle « L'éloge du carburateur » de Matthew Crawford, que son boulot à lui, qui est de mécanicien moto, ressemblait furieusement à mon métier à moi d'éditrice, et qu'on faisait finalement les mêmes choses. Quand on est face à quelque chose qui ne marche pas, on se pose les mêmes questions, et c'est surexcitant, parce que c'est un défi de réparer. Voilà. Alors, il y a cette idée de réparer, et il y a aussi, c'est pour ça que c'est notre première édition, cette idée de se réparer aussi, parce que beaucoup de gens ont été cabossés par la vie, soit par l'école, parce qu'ils ont des mauvaises notes tout le temps, soit par leur job, parce qu'ils se sont fait harceler, ou ils ont fait un burn-out, ou bien ils ne sont pas à leur place. Et donc, pour pouvoir trouver sa vocation, il faut aussi d'abord se réparer.
On parle de vocation. À quel âge peut-on parler de vocation dans sa vie ?
Mais écoutez, trouver sa vocation, c'est à tout âge, parce qu'on pense à Mozart, je pense que c'était à 4-5 ans déjà qu'il savait qu'il était un grand musicien. Moi, j'ai écrit un livre il y a, ça fait 17 ans maintenant, qui est autour des vocations tardives, où je me suis demandé comment font les gens qui trouvent très tard, notamment, moi j'avais étudié des grands génies des sciences et de la littérature, et puis des saints et des scientifiques. Comment est-ce que, quand on a 30 ou 35 ans, on va finir par trouver sa voie alors qu'on s'était fourvoyé avant. Donc là aussi, le cheminement est intéressant et je pense qu'il n'y a pas d'âge. Et parmi nos intervenants du festival, il y a par exemple une dame qui était directrice de ressources humaines dans des grands groupes industriels et qui a fait un burn-out à 55 ans et elle a passé un CAP de cuisine à plus de 55 ans et maintenant elle est chef dans deux restaurants et elle s'éclate. Donc il n'y a pas d'âge pour la trouver.
Quel est le mode, là en quelque sorte, vous allez proposer au public une certaine manière de découvrir sa propre vocation si elle n'est pas faite ?
Alors, l'idée, c'est que la vocation, on la découvre par une rencontre. Si vous êtes tout seul dans votre bulle, vous ne risquez guère de la trouver. Alors, les rencontres, il y en a toutes sortes. Donc, il y a des rencontres avec une matière. Si vous ne pouvez pas savoir que vous avez l'amour du bois si vous n'avez jamais touché de bois. Et on est quand même dans une société où on touche peu les choses. On est derrière son iPhone ou derrière son ordinateur. On est dans du virtuel. Donc là, on va offrir aux gens la possibilité, dans tout le village, de toucher à du bois, de toucher à du métal, de toucher à du tissu, de toucher à de la nourriture pour l'atelier cuisine, vraiment tout, et même les choses immatérielles comme par exemple les mots avec deux ateliers d'écriture. Donc on touche et là il peut y avoir, ne serait-ce que par un contact fugitif d'une demi-heure, on peut se rendre compte qu'on adore ça et qu'on est fait pour ça. Les autres rencontres sont des rencontres de personnes. On sait à quel point pour une vocation ça peut être déterminant de faire une rencontre qui est un déclic. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites, mais ça fait vibrer quelque chose en vous, c'est ce que je veux faire, je me sens comme lui. Et donc, on propose, c'est ce que je disais tout à l'heure, des rencontres avec toutes sortes de gens, des témoignages inspirants, donc des parcours de vie qui peuvent inspirer les gens, parce que ce sont des gens qui ont été particulièrement hardis pour se réinventer, pour oser des choses qu'on n'ose pas normalement. Ça peut être aussi des témoignages de gens qui ne croyaient plus en rien et qui finalement s'en sont sortis. Là aussi, c'est très revigorant lorsqu'on ne croit soi-même plus en rien. Et ce sont aussi un autre type de rencontres, puisqu'on dit toujours en France, il y a les manuels d'un côté, il y a les intellectuels de l'autre, et puis les intellectuels sont meilleurs que les manuels. Eh bien là, on va faire dialoguer ensemble des gens qui sont comme la carpe et le lapin, qui a priori n'ont rien à voir ensemble du tout. Je vais dire par exemple, un ébéniste spécialiste du patrimoine, et puis un ingénieur de l'aviation civile qui s'occupe de tout ce qui est aiguillage du ciel. On se dit, le rapport entre les deux, zéro, eh bien si, justement, ils ont un rapport ensemble qui est l'imagination, pour anticiper la panne ou bien reconstituer le matériau d'avant. Donc ça va être des dialogues un peu bizarroïdes comme ça. Et ce qu'on veut, c'est que de toutes ces rencontres, il naisse une espèce d'élan, de dynamique, d'enthousiasme. Parce que je tiens à rappeler quand même que c'est un festival des vocations. Ce n'est pas un grand forum de rencontres d'emploi comme on trouve souvent, où on arrive avec son CV et on va rencontrer des entrepreneurs qui sont derrière un bureau. Là, on s'essaye à tout. On déjeune ensemble sous le chapiteau, tous ensemble, les festivaliers, les intervenants. On fait la nouba le samedi soir avec un grand banquet comme chez Astérix et un orchestre de jazz qui vient. Et plein de plages où les gens pourront venir faire part de leur talent en arrivant avec leur instrument. Il y a déjà un clarinettiste qui va montrer ce qu'il sait faire. Il y a guitare électrique, il y a tout. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on va mélanger festivaliers, intervenants. On a tous notre talent, on se mélange, on se rencontre et on crée une fête.
Qui sera attaché au pied de l'arbre ?
le bar d'assurance Tourix, bon, il n'est pas encore désigné.
Ensuite, il y a des ateliers, se bouger les mains et l'esprit, hein, ça c'est sous-titré. Il y a libérer votre imagination, donc avec deux romancières présentes aussi.
Oui, alors il y en a une qui sera sur libérer son imagination, puisque la thématique de l'année étant réparée, elle va inciter les gens qui vont faire l'atelier avec elle à inventer l'histoire de la réparation, parce qu'un objet cassé, il lui est arrivé des choses. Donc voilà, ça va être un atelier plus imagination. L'autre est assuré par une romancière d'Actes Sud qui s'appelle Céline Curiole, et ça sera plutôt pour réparer son style, parce que souvent on a des complexes, on se dit j'écris pas bien, et c'est en 3 heures. En 3 heures de séance, on peut apprendre beaucoup de choses pour apprendre à écrire mieux. Donc vous voyez, c'est deux aspects complètement différents. Il y en a un qui est plutôt sur la méthode, et l'autre qui va être sur libérer son imagination.
Toujours pour se bouger les mains, un thème sur les maisons anciennes à retaper, donc avec construire un mur, ça sera au programme.
Alors oui, construire un mur, ça c'est le BTP CFA Batipol, donc de Livron, qui vient en force avec 6 apprentis, donc des jeunes, et un formateur, et donc ils vont proposer aux festivaliers de construire un mur en pierre sèche, avec de la taille de pierre aussi à l'appui, voilà. Et dans le groupe, il y aura également 2 charpentiers. Et last but not least, ces jeunes sont en sport-études, mais version manuelle, version apprentissage. C'est-à-dire que non seulement ils sont en apprentissage pour un métier, mais ils sont rugbeux. Ils font du rugby à côté. Et donc, on programme entre midi et deux de taper le ballon. Voilà.
Pour compléter cet aspect du bâtiment, il y aura aussi les cordistes de Formacane, hein, je crois.
Oui, c'est ça. Alors, parce que nous avons la chance à Mirmande d'avoir la plus grande entreprise de travaux sur cordes. Vous savez, les travaux sur cordes, ce sont tous ces travaux extrêmement dangereux qui vous obligent à être suspendu avec un baudrier et une corde au-dessus d'une falaise ou bien un gratte-ciel, etc. Cette entreprise a été la pionnière en la matière. Et ils ont un magnifique centre de formation avec des agrès, c'est assez impressionnant. Et il propose aux festivaliers de venir changer une tuile sur une tourelle construite par les compagnons du Tour de France. Et donc les gens vont apprendre à s'encorder et surtout à être méthodiques, parce que quand on risque sa vie, il vaut mieux y réfléchir avant.
Nous aussi, nous avons notre centre de formation de cordistes, t'as dit.
C'est vrai ?
Oui,
ah.
La FPA. Après, il y a une vingtaine d'autres ateliers mentionnés, plus ceux qui n'ont pas été inscrits.
Ah bah oui, on ne pouvait pas tout mettre, parce que par exemple, nous avons les compagnons du Tour de France de Grenoble qui se déplacent et qui vont proposer un atelier charpente et un atelier couverture. Nous avons l'Outil en main, qui est une association qui existe depuis 30 ans, je crois, et merveilleuse, qui est notre partenaire depuis le début, hein, ça fait 3 ans. Cette association, propose à tous les jeunes scolarisés entre 9 ans et 13 ans de découvrir chaque mercredi après-midi, en tête-à-tête avec un artisan à la retraite qui veut transmettre son savoir, de découvrir un métier manuel, et ils en font comme ça 10 ou 12 dans l'année. Et ce qui est merveilleux, c'est que grâce à ça, il y a 40% des jeunes qui passent entre leurs mains, qui trouvent leur vocation grâce à ça. Donc l'Outil en main nous vient avec un ébéniste du patrimoine et un vitrailliste. Voilà. Et ensuite, quand même très important aussi, l'AFPA de Romardèche, donc l'association de formation professionnelle pour adultes, vient en force. Au début, il n'était pas sûr d'avoir 3 ou 4 ateliers, et il y en a 10. Et là, c'est énorme, puisqu'il y a aussi bien chaudronnerie. Alors, ils vont venir avec une voiture qui est un spécimen unique, qui a été construit par leur chaudronnier. Il y aura un atelier soudage, il va y avoir maroquinerie, cordonnerie, apprendre à faire un talon avec une machine 3D, imprimante 3D, et il y aura même les soins à la personne, et avec notamment cette espèce de combinaison dont j'ignorais l'existence, où vous mettez cette combinaison, et avec ça, vous pouvez éprouver dans votre corps ce que c'est que d'être une personne handicapée ou vieille qui a mal partout. Donc voilà, il y aura toutes sortes de choses, je vous dis, c'est à l'infini, on se retrouve avec 30-35 métiers présents et qu'on peut expérimenter.
Des témoignages également, donc là on peut citer quelques noms, par exemple François Besse.
Alors oui, François Besse, certains d'entre vous connaissent sans doute, ce monsieur dont on a beaucoup parlé à une époque, qui était braqueur de banque, qui a fait 23 ans de prison, qui a été même condamné à mort par contumace, et qui était donc a priori le bandit de chez bandit, et qui a eu une rencontre choc en prison, puisqu'il y a un professeur de philosophie qui venait donc officier en prison, qui lui a fait découvrir dire Spinoza, ainsi qu'à un tout petit groupe. Et ça a été le choc de sa vie. Il a eu le temps, parce qu'il avait beaucoup de prison, donc pendant 7 ans, il a pu se frotter à Spinoza. Et il est sorti, c'était complètement un autre homme. Et là, figurez-vous que maintenant, alors il a eu d'abord, pendant un bon bout de temps, il était réparateur d'ordinateurs chez Emmaüs. Donc voilà, nous sommes sur le thème de la réparation. Mais maintenant, il répare les détenus, puisqu'il travaille avec le ministère de la Justice pour la réinsertion et puis la condition des peines. Voilà.
Nous avons aussi Denis Chessoux.
Alors oui, Denis Chessoux, que tout le monde connaît par l'émission CO2 Mon Amour et puis L'as-tu lu mon petit loup. Alors Denis va venir animer la remise des prix, parce que nous avons organisé un concours pour l'Académie de Grenoble. Et là vraiment, il y a tout de l'Académie de Grenoble, il y a des collèges et lycées de toute l'Académie qui ont concouru. Et la remise des prix se tiendra à 14h à Mirmande avec le président du jury et animée par Denis Chessoux. Et le président du jury, autre rencontre, c'est Étienne Klein, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et notamment ceux qui écoutent France Culture. Le samedi après-midi, c'est l'animateur, enfin c'est le producteur de l'émission Science en question. Et c'est également un philosophe et physicien des sciences. Il sera présent sur les 3 jours. Et je sais que c'est quand même la coqueluche de beaucoup de professeurs et d'élèves.
Catherine Dolto.
Catherine Dolto sera présente également parce que réparation, elle en connaît un rayon. Hein, donc vous la connaissez certainement, c'est la fille de Françoise Dolto. Elle est haptothérapeute, c'est-à-dire qu'elle est médecin, mais plus spécialisée dans les nouveau-nés et les femmes enceintes. Et donc là aussi, elle va intervenir en table ronde animée par Étienne Klein.
Voilà, tout ça donc pour aussi permettre de se retrouver, de se réinventer. Et donc cet apport de témoignages, il y aura des coachs. Alors oui. Comment peut-on définir dans ces instants-là leur présence ?
Alors, les coachs sont pour cette dimension de la réparation qui est se réparer. Et donc, je m'aperçois maintenant que je suis en train de gérer les préinscriptions que ces coachs ont beaucoup de succès parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en souffrance. Alors, il y a tout d'abord deux jeunes qui ont créé l'Instant Formation, qui m'ont été recommandés justement par la CAN, qui fait appel à eux très souvent. Ils m'ont dit qu'ils faisaient merveille. Et donc là, ça va plutôt être sur comment ne pas passer à côté de sa vocation et donc apprendre à bien se connaître. Il y a 3 coachs qui viennent également, dont une de la Bégutte de Mazingue, donc on reste drômois, qui, elles, vont être plutôt sur orientation, réorientation et compétences. Donc voilà, je dirais, pour le coaching. Et ensuite, nous avons 3 Mirmandaises qui se sont associées pour faire un atelier Habiter son corps. L'une d'entre elles est coach sportive, et une autre est masseuse, et l'autre est spécialiste du rêve éveillé. Donc tout ça va se situer d'ailleurs dans le même bâtiment, qui s'appelle le 3. Et donc, tous ceux qui voudront se réparer, réparer leur corps ou réparer leur tête, pourront être coachés.
Dans ce cadre, il y a un sous-titre « Beau diplôme, 2 points et après ». Alors, vous mettez le point sur quoi, précisément ?
Alors ça fait partie de ce que nous appelons les témoignages inspirants. Et donc, nous proposons 2 jeunes gens qui ont complètement réinventé leur vie, bon, qui étaient a priori partis pour des beaux diplômes. L'un d'entre eux, c'est un garçon donc, qui a 30 ans maintenant, qui s'appelle Romain Viau. Il a fait Centrale Lyon, ce qui est quand même, ça fait partie des très grandes écoles françaises. Il s'est retrouvé ingénieur nucléaire et là, ça a été la catastrophe. Il a dû faire 1 ou 2 ans, je crois, et puis il a fait un burn-out, c'était terminé. Parallèlement, sa bouffée d'oxygène, c'était d'être footballeur. Il était quasiment professionnel. Il jouait en Angleterre, notamment. Bon, mais tout ça, ça faisait un joyeux mélange. Et finalement, il a envoyé promener, cette espèce d'autoroute dans laquelle il était embringué pour être ingénieur. Et il est devenu chocolatier et il réinvente complètement le chocolat, notamment après avoir fait 1 an d'études complémentaires en biochimie pour comprendre comment fonctionne la pâte du chocolat. Et là, il est en train de réinventer complètement le chocolat et il est soutenu par de grands chefs français alors qu'il a 30 ans et qui viennent bifurquer. L'autre qui va le rencontrer, donc ils vont discuter ensemble et avec notre public, c'est une jeune fille qui, elle, me dit qu'elle n'était pas très bonne à l'école, mais bon, il faut faire des études. Hein. On sait, en France, si on ne fait pas des études longues, on est voué au gémonie. Donc, elle s'est inscrite en fac d'urbanisme. Elle souffrait beaucoup d'être enfermée. Enfin, elle ne voyait pas trop à quoi ça servait, en ce qui la concernait. Et finalement, elle a tout envoyé promener pour devenir maraîchère. Et donc, elle cultive ses 12 hectares avec son petit ami et une mule dont elle parle avec beaucoup de tendresse parce que c'est vraiment la maraîchère à l'ancienne. Voilà, et elle a 25 ans.
Tout ça, cela permettrait à beaucoup de se réparer, en quelque sorte. Et ça serait aussi pour ensuite réparer le monde. Ça, c'est aussi un objectif de cette organisation. Qu'est-ce que vous voulez sur quel point vous voulez peut-être réparer le monde, déjà?
Alors, réparer le monde, je dirais que vu le contexte actuel et auquel particulièrement les jeunes sont très sensibles, le contexte, c'est une catastrophe climatique dont on parle tant et plus, et je crois que maintenant, plus personne n'en doute. C'est aussi une raréfaction des ressources, puisque pendant des décennies, on n'était pas au courant, mais enfin, on a pioché dans nos matières premières, et puis voilà, on a dilapidé. Donc, on sait que les jeunes, aujourd'hui, se retrouvent dans un monde qui est sous le signe de la finitude, et ils sont très angoissés pour ça. Donc l'idée, c'est lors d'une table ronde qui va se dérouler le dimanche, alors si mes souvenirs sont bons, ce doit être à 15h, c'est de se demander si finalement la réparation, ça ne serait pas l'avenir du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on a passé son temps à produire, à innover avec une espèce de marche en avant forcée, et est-ce qu'aujourd'hui finalement le sens profond n'est pas de prendre soin de ce que nous avons, d'essayer de faire en sorte que ça ne se dilapide pas, que nous gardions ce que nous avons avant que ça ne disparaisse complètement. Et donc cette table ronde va réunir Antoine Aubinet, qui est un brillant architecte, qui lui aussi il a 30 ans, et il a monté une association qui s'appelle Bellastock, avec cette idée que c'est bien joli de construire, de couler du béton partout, mais en fait on a plein de bâtiments dont on peut réutiliser les matériaux. Donc lui, il réutilise les matériaux architecturaux. Alors il y a Nicolas Détry, qui lui a fondé Yes We Camp, autre association qui a vraiment le vent en poupe et qui est en train de se développer. L'idée, c'est de dire que dans les villes, vous avez toutes sortes de non-lieux, de friches industrielles ou autres qui ne servent à rien, et ces lieux, les récupérer pour réinventer une vie urbaine où les gens soient ensemble et où on mélange complètement, plutôt que d'être cloisonné par quartier. On a des centres de création comme ça où on peut travailler ensemble, où on peut vivre ensemble, quelle que soit son origine sociale et quelles que soient ses spécialités. Donc c'est vraiment la ville de demain, si vous voulez. Et la troisième personne, donc ça c'était Nicolas Détry, et le troisième c'est Pierre Veltz, alors qui lui n'a pas bifurqué, c'est quelqu'un qui est un polytechnicien, ingénieur des ponts, qui est sociologue, économiste et ingénieur, et qui est grand spécialiste des territoires. Donc lui, il écrit un livre tous les deux ans sur cette thématique ou sur la thématique de l'industrie, qui là aussi est de dire qu'il faut repenser notre rapport au territoire et finalement redonner la main au territoire pour inventer l'avenir.
Vous parliez justement de ces territoires de non-droit ou en friche. Pour vous, qu'est-ce qui est important à remédier dans ces zones? Moi, je trouve un peu dommageable pour l'enfance, par exemple. Quand j'étais petit, on profitait de ces quartiers abandonnés, des maisons vides, où on y jouait, où on se découvrait aussi à faire plein de choses dedans.
Oui.
Ça, cette notion a disparu dans les politiques municipales, j'imagine, puisque le logement prime.
Oui. Alors, mais je pense que là, vous parlez de souvenirs d'enfance, mais il y a quand même quelque chose qui a beaucoup évolué, et ça, j'en ai entendu parler par tous nos partenaires, notamment les formateurs. C'est que autant peut-être à notre époque, parce que je pense qu'on est à peu près de la même génération, on passait son temps dehors à faire du vélo, etc., autant maintenant, il y a quand même un rapport qui a changé à cause de l'écran. Et il y a quand même beaucoup plus de tendance chez les jeunes à être assez repliés sur soi-même. Et notamment, j'ai parlé à toutes sortes d'associations qui s'occupent de jeunes décrocheurs scolaires et qui me disaient que le grand, grand danger lorsque ces jeunes décrochent scolairement, c'est qu'ils ont une tendance au repli sur soi et à se retrouver finalement tout seuls dans leur chambre avec leurs jeux vidéo, et finalement il y a une désocialisation. Donc je pense qu'on est dans un monde qui est quand même beaucoup moins tourné vers l'extérieur, et c'est en partie pour ça qu'il y a le festival, parce que là on va être 3 jours dehors et 3 jours à toucher des choses et à ne pas toucher son iPhone.
Mais justement, est-ce que ça ne serait pas le moment aussi de réparer ces aspects-là où l'enfant peut se retrouver dans un lieu qui lui est permis?
Alors oui, mais
est-ce que ça ne serait pas une réparation aussi, peut-être?
Certainement, mais encore faut-il déjà qu'il ait cette envie d'être dehors Et je pense que cette envie d'être dehors, il peut l'avoir. Donc, on aura beaucoup de jeunes, notamment le vendredi. C'est la journée plus particulièrement dédiée aux scolaires, même s'il n'y a pas que des scolaires. Il y a des jeunes de mission locale qui vont venir en bus, etc. Et il y a vraiment cette idée, on leur fabrique un rallye pour qu'ils puissent butiner dans tout le village, courir partout. C'est de se réconcilier avec le monde réel. Le monde n'existe pas que par écran interposé. Et comment voulez-vous aimer les choses et découvrir votre voie si vous ne touchez pas? Donc je rejoins ce que vous dites, effectivement. Bon, ça peut être vous parlez de lieux géographiques. Moi, je dis que déjà, si on a envie de toucher du bois, c'est merveilleux.
Tout ça, ce sera dans un cadre festif, avec des concerts, et des films aussi projetés.
Alors oui, on a un film projeté qui est un film sur les centaures de Marseille. La réalisatrice Marie-Claude Tréglia sera présente pour parler de son film. Ce film met en avant, on en a quand même pas mal entendu parler, les centaures, ce sont deux cavaliers, un homme et une femme, qui étaient un couple, parce que je crois qu'ils ne le sont plus, qui ont monté le théâtre des centaures à Marseille, dans un des quartiers nord de Marseille. Et leur idée, c'est de réunir, de rendre son unité à la ville. Donc, on sait qu'à Marseille, c'est particulièrement fragmenté. Vous avez les quartiers nord, vous avez les beaux quartiers, etc. Et les centaures, eux, par ce qu'ils appellent leur surgissement, c'est-à-dire ils arrivent sur leurs chevaux tous les deux, debout, habillés d'une façon magnifique. Ils font leurs danses, leurs acrobaties, etc. Mais ils font ça un petit peu dans leur théâtre, mais beaucoup dans leurs surgissements qui sont n'importe où. Donc ils ont surgi à la gare de Marseille-Saint-Charles, ils ont surgi à la prison des Baumettes devant les prisonniers, et la scène a été filmée, c'est extraordinaire, l'émerveillement des prisonniers de voir ces chevaux dans leur cour intérieure. Ils ont aussi surgi à Paris, dans toutes sortes de villes, et lorsqu'ils surgissent, ce qui est très beau et on le voit quand c'est filmé, c'est que les gens sont tous fascinés, et que vous ayez le patron avec son attaché case ou le petit gamin qui est avec sa capuche, tous ont ce même air émerveillé et sont réunis autour de la beauté. Voilà, donc c'est un film sur ces centaures, comme quoi l'art aussi peut réconcilier les gens et l'émerveillement.
On parlera du concert aussi ?
Oui, alors de concert, il y en a deux. Alors le concert officiel, ça va avoir lieu le samedi à 18h15 à l'église Sainte-Foy. Et là aussi, c'est une belle histoire de reconversion, puisque ça va être un concert sifflet et piano. Alors sifflet, vous me direz, non, c'est pas quelqu'un qui siffle dans un sifflet, c'est quelqu'un qui est un siffleur. Et il n'a pas toujours été siffleur, Bertrand Cosse, puisque pendant toute sa vie, il était un grand altiste, qui jouait à l'international. Et il a eu ce qui arrive parfois aux violonistes et aux altistes, c'est-à-dire que vous avez le bras qui est quasiment paralysé, vous savez, une tendinite chronique qui fait que vous ne pouvez plus jouer. Donc ça veut dire une carrière brisée. Mais sa vie, c'était la musique, il ne pouvait pas vivre sans la musique. Et là, il s'est souvenu que son père était excellent siffleur, et lui-même d'ailleurs s'entraînait souvent à siffler. Et donc il a cultivé ce nouveau talent, il est devenu vice-champion du monde de sifflet, et donc vous pourrez l'écouter siffler de grands airs d'opéra, comme si c'était une cantatrice, sauf que c'est au sifflet, et avec la pianiste Christine Charéron. Donc il parlera aussi un petit peu de son expérience d'auto-réparation. Donc ça c'est pour le concert à l'église Sainte-Foy, et ensuite, puisque je vous parlais tout à l'heure de ce grand banquet à la Astérix que nous allons faire le samedi, où nous mélangeons les festivals et les intervenants. Et là, nous aurons donc cet orchestre de jazz qui va venir jouer et laisser la place aussi au public pour venir jouer de son côté. Voilà, donc ça va être la partie musique du festival.
Ce festival Vocation est organisé par quelle association ?
Alors, c'est une association qui s'appelle les Chemins du Fer. Nous sommes 21 personnes, toutes impliquées d'une façon ou d'une autre dans le travail ou la reconversion. Alors, il y a des sociologues du travail, il y a des formateurs, il y a la directrice de l'AFPA de Romardèche qui en fait partie, il y a la secrétaire générale de l'Outil en Main qui en fait partie, Pierre Vels, dont je parlais tout à l'heure, qui interviendra dans une des tables rondes, en fait partie. Il y a aussi trois membres de l'Éducation nationale, retraités, et qui font partie des très rares de l'Éducation nationale, qui, tout en étant des littéraires, parce que ce sont trois littéraires, sont totalement investis et engagés dans la réhabilitation du travail manuel à l'école. Voilà, donc ça, c'est assez rare pour que ça mérite d'être signalé.
Il y a une notion, avant de continuer, sur le travail. Quelle est la différence avec le terme emploi ?
Ah, bah écoutez, un emploi, comme le nom nom l'indique, c'est quelque chose, vous êtes employé et moyennant cet emploi, vous recevez une rémunération. Voilà, c'est une façon de gagner sa vie. Et d'ailleurs, ce qu'on regrette beaucoup, c'est qu'actuellement, on ne parle que on parle beaucoup d'emploi, mais on oublie complètement la notion travail. Alors, le travail, en même temps, c'est quelque chose d'ambigu, puisque étymologiquement, ça vient de tripalium en latin, qui est un instrument de torture. Donc, a priori, le travail, étymologiquement, c'est une torture. Mais on sait que les choses ont beaucoup changé, et notamment avec Marx, et puis ensuite, aujourd'hui, dans la mesure où tout le monde passe, je dirais, le plus clair de son temps au travail, il y a ce besoin et cette nécessité de faire en sorte que ce qu'on va produire par son travail ait du sens. Donc là, nous sommes vraiment dans cette mouvance qui notamment était la dénonciation de ce qu'on appelle les bullshit jobs, les jobs à la con, dont parle l'anthropologue David Graeber et qui donc, dans son livre qui avait fait énormément de bruit et qui est très saisissant, montre à quel point, notamment chez les cadres, il y a toutes sortes de jobs qui ont d'abord des noms franglais la plupart du temps. Et puis lorsque vous dites à votre fils « je fais ce job ou cet autre », on ne sait même pas à quoi ça correspond. Et les centaines de personnes qui ont été interviewées par David Graeber le disent elles-mêmes, on ne sait pas à quoi on sert, on est un maillon, on fait des reportings, on fait des tableaux Excel, on fait des réunions, on a des N plus temps au-dessus de soi, on a des N moins temps au-dessous de soi, on est un maillon dans une chaîne, le travail n'a plus aucun sens. Donc là, nous, on veut remettre le travail à l'honneur et le réenchanter avec cette idée qu'on est maître de son travail, de ce que l'on produit, et on doit le faire en harmonie avec ses propres valeurs. Autrement, c'est une souffrance terrible.
Tout au long de l'année, l'association Les Chemins du Fer pratique ou s'ouvre aussi à d'autres organisations.
Et je vous dirais qu'en fait, l'association a été créée en décembre 2018 pour le Festival des Vocations. C'était vraiment, on avait cette idée du festival qui était en nous. On a créé l'association pour ça. Elle fera d'autres choses, oui, mais pour l'instant, c'est un très gros morceau, ce festival, d'autant plus gros, hélas, que, comme vous le savez, nous sommes passés par une pandémie et il devait avoir lieu en mai 2020 et il a été repoussé 2 ans de suite. Alors, autant vous dire que là, il est là dans 3 jours et on est fou de joie.
La première édition, c'est réparer. Oui. Les suivantes auront d'autres verbes ?
Alors, les suivantes auront évidemment d'autres verbes. Alors, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être transmettre, ça peut être innover. Il y a toutes sortes de choses à débattre. Mais nous allons faire ça en partenariat avec justement nos partenaires. Ça va être une décision collective. Et puis, on va aussi écouter ce qui va émaner de notre public qui va être là, voir un peu quels sont les désirs, les aspirations pour la prochaine vocation.
Voilà, donc un festival porté par beaucoup de collectivités également,
voilà.
Que ce soit départemental, régional, local, et puis de structures aussi ou d'institutions.
Oui, alors attendez, parce que là, ma liste de logos est tellement grosse, merci de me la redonner, je vais essayer de la voir. Alors oui, nous avons aussi bien des partenaires institutionnels, alors je pense par exemple à la communauté de communes du Val-de-Drôme, qui s'est beaucoup impliquée, et grâce à qui nous avons eu une subvention européenne, subvention leader. Nous avons le département Drôme, qui va nous fournir tous les quarts pour les jeunes qui vont venir vendredi. Donc chacun, voyez, a donné en fonction de ce qu'il pouvait donner ou de ce qu'il voulait donner. Et nous avons aussi des partenaires privés, donc beaucoup. Nous avons le CNAM qui nous a soutenus dès le début, le Conservatoire National des Arts et Métiers. La fondation du BTP, nous avons très important, qui nous a rejoint il y a peu, la fondation de l'Académie des technologies, qui elle aussi est très investie dans cette idée de retour à la matière, c'est très important. J'en oublie beaucoup, et oui, je citais l'AFPA Drôme Ardèche, là vraiment, qui fait partie des tout débuts, et le groupe Cannes, donc votre rival, puisque vous avez des cordistes à dire, mais le groupe Cannes, lui aussi, qui a dit oui tout de suite, d'emblée. Voilà, il y en a encore plein d'autres, et oui, j'oubliais l'essentiel quand même, c'est l'Éducation nationale, qui est notre partenaire sur notre concours Les Fériades, en la personne de la rectrice de l'Académie de Grenoble, qui donc nous a soutenus sur toutes ces actions, sur 3 ans, puisque je vous dis, ça a été annulé à chaque fois.
La politique du travail dans sa globalité en France, quelle perspective y voyez-vous dans son abord, dans sa technologie aussi ?
Moi, je vous dirais que je vais pas tellement me prononcer sur la politique du travail, mais moi, ce serait plutôt mon dada en tant qu'ancienne prof et entourée de profs, c'est la formation. Et moi, j'ai donc été mandatée par l'École des Mines pour faire une recherche, un essai, qui s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles le travail manuel et technique souffre d'un tel discrédit en France. Donc ça a été un travail de 5 mois qui était un travail historique pour essayer de remonter aux sources. Et ce que j'ai découvert sur la façon dont a été gérée la formation, et y compris surtout peut-être par l'éducation nationale depuis plus d'un siècle, c'est un peu terrifiant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une idée bien ancrée, en fait, dans l'éducation nationale, qui est que le travail noble, le beau travail, c'est le travail de l'esprit, c'est le travail de l'abstraction. Avec une idée très belle et très noble aussi, qui est de dire il n'y a pas de raison que ce soit les gens de milieux défavorisés qui se mettent aux tâches, qui ne puissent pas faire d'études. Eux aussi ont le droit de faire des études, c'est absolument vrai. Il y a des gens doués pour l'abstraction partout. Mais là où il y a eu une déviation, c'est cette idée de se dire comme il n'y a que le travail intellectuel qui vaut, tout le monde doit faire un travail intellectuel. Et donc, c'est scandaleux d'envoyer des jeunes faire dans la voie professionnelle. C'est quelque chose d'humiliant. La voie professionnelle est une voie par défaut qui ne devrait même pas être admise, à la limite. Enfin, c'est comme ça que c'était perçu pendant une bonne partie de la Ve République. Maintenant, c'est en train de changer. Mais il y a quand même cette idée que qui va-t-on orienter en voie professionnelle ? C'est vraiment le gars ou la fille qui n'y arrive pas parce qu'il a des mauvaises notes partout. Et là, ça va être la voie de garage. Ce qui est absolument scandaleux, parce qu'il y a des vocations manuelles et techniques chez des gens très doués pour l'abstraction. Les nombreuses reconversions qu'on observe chez les diplômés le montrent. Et que dire aux jeunes, mettre dans la tête des jeunes qui ne sont pas doués pour l'abstraction que ce sont des imbéciles et que comme ce sont des imbéciles, on va les mettre dans la voie pro, c'est honteux parce qu'il y a une extrême intelligence qui est juste une intelligence concrète, c'est-à-dire ça passe par des biais différents. Mais moi, j'ai eu des témoignages merveilleux de gens que j'ai interviewés qui ont été des cancres dans leur scolarité, qui maintenant sont des entrepreneurs qui marchent magnifiquement. Et je me souviens notamment d'un plâtrier qui était un plâtrier portugais qui m'a dit des souffrances indicibles qu'il a vécues à l'école parce qu'il avait moins 40 en dictée. On disait que c'était un nul. Il a haï l'école à partir de 11 ans. C'était terminé. Il ne voulait plus en entendre parler. Maths, n'importe quoi, plus rien. Et il m'a dit, à partir du moment où j'ai trouvé mon métier, qui m'a passionné tout de suite, je me suis mis aux maths, parce qu'on a besoin de maths. Et là, je comprenais à quoi ça servait. Et donc, c'est un gars qui est ouvert à tout et passionné. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment, c'est sur la formation qu'il faut mettre l'accent. Il y a vraiment à réinventer la façon dont on traite les jeunes, notamment au collège.
Si je comprends bien, donc un festival ouvert à tout public ?
À tout public, absolument. Et parce que soit, bien sûr, on est en questionnement ou en souffrance, et là, vraiment, on trouve tout ce qu'on y veut. Mais ça peut être aussi qu'on se dit « Ah, alors, j'ai envie d'expérimenter du vitrail, j'ai envie d'expérimenter de l'ébénisterie. » Et là, ça peut être, je pense, en plus, je crois qu'il est parti pour faire beau, ça va être une façon de se balader dans le village pour essayer toutes sortes de choses. Donc, je dirais, il y a aussi bien un aspect ludique qu'un aspect plus thérapeutique.
Pour connaître aussi les activités de cette association et puis le programme complet de ce festival, il y a un site internet.
Voilà, donc c'est https://www.vocationlefestival.com et j'invite tout le monde à se préinscrire parce qu'il y a certaines activités où les places sont chères. Et là, je vous disais, notamment pour les coachs, je me rends compte que c'est en train de se remplir très vite. Par exemple, pour l'atelier cordiste, qui moi, si j'avais le temps de participer à quelque chose, je m'y précipiterais. Eh bien, il y a 6 sessions de 3 heures qui ne peuvent accepter que 3 personnes à la fois. Donc, vous voyez, si vous faites votre compte, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, il est vivement conseillé de s'inscrire tout de suite. Et notamment aussi, si vous voulez participer à notre grand banquet d'Astérix le samedi soir, où là, si on n'est pas inscrit, on aura du mal à pouvoir y accéder.
Pour la durée de ces 3 journées, il est possible pour les visiteurs qui veulent participer à toutes les activités, du moins, quelles sont les possibilités d'hébergement ?
Alors, hébergement, là, il faut trouver... Alors, il y a le camping qui est le plus pratique. Il y a encore des places dans des hôtels. Je dirais, à Mirmande même, ça me paraît un petit peu délicat, mais si on a sa voiture, on peut être à quelques kilomètres. Et surtout, nous avons prévu la restauration. Donc, nous avons... trois food trucks locaux qui vont être présents. Avec, pour l'un, ce sont des burgers. Pour l'autre, ça sera plutôt tendance ravioles. Et pour le troisième, que je me souvienne, oui, plutôt tendance crêpes et pancakes. Voilà, crêpes salées. Et nous-mêmes, nous allons fournir des sandwichs et nous allons faire une buvette. Voilà.
Le lieu précis de ce rendez-vous ?
Eh bien, écoutez, c'est à Mirmande et il n'y a pas, je ne dirais, il n'y a pas de lieu précis, si ce n'est que l'accueil billetterie, c'est sur la place de l'Office du tourisme. Et après ça, il y en a un peu partout, du sommet du village, donc à l'église Sainte-Foy, à tout ce qui est à 300 mètres du village en bas, le groupe Cannes, donc pour les travaux sur corde.
Laurence Descréants, je vous remercie d'être venue de si loin pour nous parler.
Je vous remercie, c'est un plaisir.
De ce festival des vocations et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, vous de même. Au revoir.